Betseder, eh bien, Boker Tov Lekoulam, Chodesh Tov Lekoulam, Chodesh Tov Mvorach. Et donc, nous allons repartir dans notre étude et j'ai envie de dire, ça y est, nous allons entrer aujourd'hui dans le 20e siècle. Après avoir passé près d'un mois sur le 19, la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer à pénétrer dans le XXe siècle. Alors évidemment, ça sera des allers-retours hein, parce que sur cette période de jonction entre le 19e, fin du 19e et début du XXe siècle, eh bien, il y a énormément de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un chacham. Vous savez, dans la liste des rabbins qu'on a évoqués, il y en a beaucoup qui étaient des superstars, des rabbins connus. Mais il y en a également beaucoup qui n'étaient pas connus du tout. Et je pense que le Chacham qu'on va évoquer aujourd'hui, eh bien, rentre dans cette catégorie des rabbins pas du tout connus. Mais alors, pas du tout connus. Alors que vous allez voir que non seulement Miprinat Torato, on parle d'un géant de la Torah, mais également Miprinat, tout ce qu'il a réussi à faire. Et on peut parler clairement ici, je pense que c'est la meilleure définition qui s'impose, on peut parler ici d'un hyperactif. Mamash. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait beaucoup de gens qui aient fait autant de trucs dans leur vie. Alors, de qui on parle? On parle de un personnage qui vient d'une famille qui est une famille de Mégourachés Sfarad, qui sont des anciens expulsés d'Espagne et qui ont été s'installer, après pas mal de tribulations, ils ont été s'installer finalement en Grèce. Hop, je remets la caméra pour que ça débute. Voilà. Ils ont été s'installer en Grèce. Et ils habitent sur l'île de Rhodes. Là-bas, il y a une grande communauté juive et le papa de la famille, qui s'appelle Kalev, eh bien, Kalev, il réussit, c'est un Talmid Chacham, mais ce n'est pas un rabbin, c'est un Talmid Chacham qui vend du tissu. Et tout le monde le reconnaît comme étant quelqu'un de très intègre, avec des bonnes qualités humaines, ce que vous voulez. Et il va y avoir, à un moment donné, la possibilité pour pas mal de juifs de venir s'installer en Eretz Israël. Et au moment où la possibilité est donnée aux juifs de passer, enfin, pour les juifs qui veulent venir s'installer en Eretz Israël, il faut bien passer par Rhodes fait partie des endroits par lesquels on passe. Eh bien, lorsque Kalev voit les Juifs commencer à revenir en passant par chez lui pour arriver en Israël, il prend une décision. Il dit, le rêve bimillénaire de revenir en Eretz Israël ne peut pas être simplement du domaine du rêve. Et moi, je ne peux pas être un spectateur du retour du peuple juif. Et donc, il décide, lui aussi, de faire ses bagages avec sa femme et de partir en Eretz Israël. Et donc, ce bonhomme qui s'appelle Kalev Meir, eh bien, part en Israël. C'est là-bas que sa femme tombe enceinte, et c'est donc là-bas, en 1856, que va naître le personnage qui nous intéresse. Et le personnage qui nous intéresse, on va l'appeler Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov? Eh bien, parce que Kalev espère que Yaakov, qui revient d'exil, puisse aider le peuple juif à redevenir Israël. Et donc, il ne l'appelle pas Israël, il l'appelle Yaakov pour qu'il puisse, comme Yaakov Avinu, eh bien, devenir Israël. Et donc, le personnage qui nous intéresse va s'appeler le Rav, plus tard, il vient de naître, mais va s'appeler le Rav Yaakov Meir. Et je pense que je ne vais pas m'avancer très 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 loin en disant que personne n'a entendu parler de lui. Personne n'a entendu parler de lui, alors que vous allez voir. Alors il y a une raison. il y a une raison pour que les gens n'aient pas entendu parler de lui, mais cette raison, elle est que à la fin de sa vie. Donc, en fait, ce n'est pas une vraie raison. C'est quoi la raison à la fin de sa vie? On verra, je ne vais pas vous spoiler maintenant. Quoi qu'il en soit, notre petit Yaakov Meir, eh bien, va avoir une révélation. Il va avoir une révélation qui va l'accompagner toute sa vie d'homme, de rabbin, et la Torah qu'il va étudier, Torah ta Kabbalah qu'il va étudier, eh bien, va être toujours connectée à ce chamboulement dans sa vie qui va avoir lieu lorsqu'il a 8 ans. Il a donc 8 ans. Nous sommes, je ne vais pas faire des mathématiques trop compliquées, on est en 1864. Et sa maman lui dit, Yaakov, quel est son nom? Ah, excuse-moi, il s'appelle Yaakov Meir, Arav Yaakov Meir. Et donc sa maman, quand il a 8 ans, lui dit, écoute, Yaakov Sheli, est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais aujourd'hui prier au Kotel. Évidemment, le petit Yaakov dit oui, c'est la première fois qu'il va aller au Kotel. Il a 8 ans. Maintenant, attention, que les choses soient claires, c'est quoi le Kotel de l'époque? C'est pas le Kotel qu'on connaît aujourd'hui. En 1864, le Kotel n'est qu'une toute petite ruelle. Une ruelle qui fait à peu près 20-25 mètres de long et 3,5 mètres de large. Zekloum, c'est une petite ruelle dans laquelle s'amassent les Juifs. Des fois, on leur jette des salades, des tomates, voire des cailloux. Des fois, on le laisse prier tranquillement. Ce n'est pas du tout l'ambiance qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a une autre chose qu'il n'y a pas au Kotel. Il n'y a pas à ce moment-là de méritza. Alors attention, il n'y a pas de méritza entre hommes et femmes. Mais en vrai, ce n'est pas de cette méritza-là dont on va parler. Lorsque le rab... Alors, il n'y a pas de méritza hommes et femmes à cette époque-là pour deux raisons. Un, parce que les Anglais... les Anglais, je raconte. Les Turcs ne laissent pas faire. Et au-delà de ça, parce que personne ne pense à mettre une méritza là-bas. Zemakom Kadosh, personne ne pense qu'il va y avoir des problèmes. Et il faut aussi dire les choses un peu honnêtes. La mode vestimentaire de l'époque des Juifs qui habitent là-bas, on va dire, n'est pas celle qu'on peut trouver au mois de juillet, août, dans certains milieux en Israël. Donc, autant vous dire que la tzniout n'est pas un problème du tout à cette époque-là. Bekitsour, mais ce n'est pas de cette méritza-là qu'on va parler. Yaakov Meir, le petit Yaakov, arrive au Kotel et là, sa mère lui tient la main. Il est attiré, il est happé, pas par le mur, mais par les gens. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Qui est au Kotel ce jour-là? Eh bien, au Kotel ce jour-là se trouve Amisraël. Ça veut dire quoi? Il doit y avoir quoi? Allez, 30 personnes, 40 personnes, pas plus. Oui, mais il voit des chassidim avec du shtreiml. Il voit des Irakiens en tarbouche, il voit des Juifs qui viennent, je ne sais pas exactement d'où, mais qui parlent judéo-arabe. Il voit et il entend tout le monde prier ensemble et il écrira dans son journal. Lorsque j'ai entendu pour la première fois cette fille-là qui était à l'unisson avec des airs différents, avec des langues différentes, avec des accents différents. Parce que lorsque tu parles hébreu avec un accent yiddish, ça ne sonne pas pareil que quand tu parles hébreu avec un accent irakien. D'accord ? Et il dit, c'était la plus belle harmonie que je pouvais entendre. La plus belle preuve d'unité qu'on puisse être donné à voir. Rav Yaakov Meir va grandir avec cette image-là de Am Israël qui prie ensemble de cette dimension de achdout, d'unité, qui est la seule qui va pouvoir révéler la Géoula. Et donc, eh bien, c'est avec cette vision du monde que le Rav Yaakov Meir commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et il va grandir. Il va grandir, il va étudier dans les différents Batei Midrash de Jérusalem jusqu'à l'âge de ses 16 ans. À l'âge de ses 16 ans, eh bien, les amis, comment vous dire? Nous sommes en 1872, et alors qu'il n'a que 16 ans, eh bien, il décide qu'il veut étudier dans un endroit un petit peu plus. Voilà. Il passe les examens et il est reçu, pas dans une yeshiva où il va étudier bien. Non. Il est reçu à 16 ans, Beishivat Amekoubalim Betel. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. On a déjà parlé de cette Yeshivat Amekoubalim Betel. Vous comprenez que si à 16 ans tu rentres là-bas, bon, tu as compris qui c'était le bonhomme. Et il devient non seulement l'élève, mais le méchamèche du Rosh HaYeshiva, Harav Uziel. Les amis, à partir de là, pendant 4 ans, il est en immersion totale. Il est en immersion totale, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Il n'y a pas de problème. Terminé. Zéro. Et au bout de 4 ans, on est en 1878. En 1878, il continue à étudier, mais il est également connu par les Juifs, mais également par les autorités ottomanes. Il a 20 ans et il est connu comme étant... Il a 22 ans, c'est ça. 22 ans, il est connu comme étant celui qui réunit tous les Juifs séfarades de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Il y a des rabbins qui sont vachement plus âgés. Il y a des rabbins qui sont les dirigeants spirituels de Jérusalem, comme par exemple le Rav Shaul Eliashar, qui est le patron de Jérusalem. Ken Aval, celui qui fait l'unanimité, celui qui a 22 ans et qui pourtant, tout le monde, non seulement aime entendre ce qu'il a à dire, mais quand il y a un problème, se tourne vers lui, eh bien, c'est le jeune Yaakov Meir. Il n'a encore rien fait. Alors oui, il est rabbin, mais il n'a encore rien fait. Mais c'est en 1878 que commence son hyperactivité. Il est tard. Il fait nuit. Deux de ses élèves viennent toquer à sa porte, à la porte du jeune Yaakov Meir, qui est marié déjà depuis 6 ans. Ils viennent toquer à sa porte en pleine nuit. Meshamesh, ça veut dire que c'est... l'aide de camp, c'est celui qui va être au quotidien avec le Rosh Yeshiva, qui va le conduire là où il a besoin d'être conduit, qui va aller le chercher, qui va lui préparer ses affaires, qui va être en contact rapproché avec lui. D'accord ? En 1878, donc, en pleine nuit, on vient le réveiller, on lui dit « Arav, beau, il faut que tu vois ça. » Dit Makara. Et on l'amène dans une petite ruelle de Jérusalem. N'oubliez pas, nous sommes dans une période où Jérusalem ressemble à tout sauf à ce qu'on écrit sur elle dans les chansons. C'est-à-dire que la Jérusalem des chansons, c'est une Jérusalem en diamant, en or, en spiritualité, ce que tu veux. La Jérusalem physique de la fin du 19e siècle, c'est la poubelle de l'Empire ottoman. C'est moche, ça pue, il fait froid, on a faim. C'est n'importe quoi. Il arrive Yaakov Meir, le Rav Yaakov Meir, dans une petite ruelle, et son talmid, David, va lui dire « Voilà, je ne sais pas quoi faire. On est devant une grande poubelle, mais vraiment, kipchuto, une poubelle. » Et à ce moment-là, eh bien, va sortir de la poubelle, enfin, pas vraiment sortir de la poubelle, on va lui ouvrir la poubelle pour qu'il puisse voir de quoi il s'agit. Et dans cette poubelle, eh bien, le Rav Yaakov Meir va tout simplement voir deux jeunes garçons. Un de 8 ans et un de 10 ans. Ils habitent là. Oui, 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 ça paraît complètement fou. Ils habitent là. Le Rav Yaakov Meir dit « C'est absolument pas possible. La première chose à faire, c'est de les sortir, il les ramène chez lui. Il les ramène chez lui pour leur donner à manger, pour qu'ils puissent se laver. Bon, d'accord. Mais ça, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu avoir ce geste de chesed, de dire « je vais les amener à la maison, je vais leur donner à manger ». Seulement le lendemain matin, alors que les deux enfants continuent à dormir, Rav Yaakov Meir va commencer à faire une action. Il dit « il est impossible que ça continue cette situation ». Et donc, eh bien, il commence à, j'allais dire en version 2021, il commence à passer des coups de fil. Il écrit des lettres partout. Pourquoi faire? Eh bien, parce qu'il dit, cette année, on créera le premier orphelin pour Jérusalem. Et oui, messieurs, dames, c'est en 1878 qu'il va créer le Babet Yetomim, le grand orphelin, orphelinat de Jérusalem. Comment il va réussir? Eh bien, il va réussir tout simplement parce que l'une de ses lettres est adressée ni plus ni moins qu'à un monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle le baron Edmond Binyamin de Rothschild. Et oui, vous connaissez le Beth Yetomim qu'il y a à Jérusalem, dans la vieille ville. Eh bien, qui est l'instigateur de ça? Rav Yaakov Meir. Ça y est, ça commence. Ça commence, mais il ne va pas s'arrêter là. Non, non, il ne va pas s'arrêter là, puisque un an plus tard, en 1879, eh bien, il décide que, bon, bah, c'est bien qu'il y ait un orphelinat pour les enfants, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que des fois, le problème, il n'est pas quand il y a des enfants qui n'ont pas où aller. Non, des fois, il y a des gens qui ont où aller, qui ont une maison, mais ils sont malades. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? On va chez le docteur. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le docteur, ça ne suffit pas et qu'il faut un traitement un petit peu plus poussé? Ah ben, pas de problème, on va à l'hôpital. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital. Enfin, il y a un hôpital, mais ce sont des hôpitaux ottomans. Et donc, il y a toujours des problèmes de cache-route, déjà un. Et deux, les médecins ottomans font toujours passer les patients juifs en dernier s'il y a le temps. Et donc, bon nombre de Juifs ne vont pas à l'hôpital quand ils sont malades parce qu'ils savent que leur situation va empirer là-bas. Et donc, Rabbi Yaakov Meir, il a 23 ans et il commence à faire le tour de tous les Baalei Emtsaïm du monde juif, de tous les gens qui ont un peu de fric-fric, parce qu'il veut construire le premier hôpital juif à Jérusalem. Vous le connaissez, il s'appelle Misgav Ladar. Alors oui, aujourd'hui Misgav Ladar c'est à Katamon, mais à l'origine, c'était dans la vieille ville. Et quand vous rentrez dans l'hôpital de Misgav Ladar et que vous regardez le mur des fondateurs de l'hôpital, eh bien qui apparaît en tête de liste? Arav Yaakov Meir. Donc voilà, la première chose à faire, s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Rav Yaakov Meir écrira que, comme le Rambam d'ailleurs, quand le Rambam, on lui demande quelle est la première action que Moshe Rabbeinu a fait pour lui donner un statut qui va lui permettre de devenir prophète. Il dit les premières actions qu'il a fait, c'est prendre la défense du juif face à l'Égyptien et ensuite prendre la défense des filles de Yitro face aux bergers qui les attaquaient. Car porter secours à ceux qui ont un besoin, ceux qui sont en danger, c'est la base de la morale qu'il faut pour la névoie. Et donc le Rav Yaakov Meir, avec toute sa Kabbalah, ben c'est sûr que c'est de ça qu'on parle. Il est tout d'abord un actif énorme sur les Juifs qui sont dans le besoin. Et parmi les Juifs qui sont dans le besoin, il y a son maître, le Rav Uziel. Le Rav Uziel, Rosh Yeshiva de Yeshiva Tamekoubalim Betel, alors que Reb Yaakov Meir a 23 ans, le Rav Uziel est en fin de vie. Et il fait appeler Rabbi Yaakov Meir et il lui dit, regarde, je ne peux pas te demander d'être Rosh Yeshiva après moi, tu es trop jeune. Mais j'ai envie de te demander autre chose. Il dit, mais de quoi tu parles? J'ai envie de te demander autre chose mes enfants sont tous mariés et ont tous voilà leur famille. Et j'ai mon petit dernier. Mon petit dernier, mon mégénique, comme on dit en yiddish, c'est l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse. Et il a 7 ans et il est sourd et muet. Et une fois que je vais partir, il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui. S'il te plaît, promets-moi que c'est toi qui t'occuperas de lui. Promets-moi que tu t'occuperas de mon petit Raphaël. Eh bien, sans même réfléchir, Rabbi Yaakov Meir regarde sa femme et les deux d'un regard se disent, mais évidemment, évidemment. Et ils vont adopter le petit Raphaël. Et avec une abnégation énorme, un temps fantastique, il sait qu'il a besoin de plus d'attention que les autres, puisque à l'époque, sur le muet, il n'y avait pas du tout de quoi traiter ou de quoi appareiller ou quoi que ce soit. Mais Rabbi Yaakov Meir est persuadé qu'avec beaucoup d'amour de sa part et beaucoup de tfilot, alors, Mitzad HaKadosh Baruch Hu, qui donne la parole au muet? Qui donne l'entente au sourd? C'est HaKadosh Baruch Hu. Bien, les amis, avec beaucoup, beaucoup d'amour et de temps, le petit Raphaël va commencer à s'améliorer dans sa parole et il va commencer à parler et il va également commencer à entendre un petit peu. Et il réussira à devenir Arav Raphaël Ben Uziel, Echad Migdolei Rabbanei Yerushalayim. Et puis, à un moment donné, Rabbi Yaakov Meir et sa femme, bon, bah, ils ont également une petite fille. Et cette petite fille, ils décident de l'appeler Luna. Et à un moment donné, ils se disent qu'il faut la marier. Et ils regardent toutes les propositions qui arrivent pour leur fille. C'est beaucoup plus tard, hein, je n'imagine pas Metame Ouchar, mais est-ce qu'on est dans ce Indian-là, jusqu'au moment où ils se disent, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on cherche un Khatan loin alors qu'on a un homme fantastique avec des midot tovot, Yirat Shamaim, tzadik, sous le nez? Et ils décident de marier Raphaël à leur fille. Mamash Ish Shel Chesed Amiti. Et donc, vous comprenez que c'est un homme qui, l'air de rien, eh bien, il agit toutes les 5 secondes sur le peuple juif. Et donc, bah, c'est tout à fait naturellement que lorsqu'en 1881, vous avez compris, il n'a que 25 ans, mais il est déjà celui qui doit régler les problèmes par rapport aux Ottomans. Et quel est le problème? Ouah, et ces problèmes? Il y a un groupe non négligeable à peu près 400 juifs qui sont arrivés de Perse. Des juifs, des Olim Hadashim, qui sont arrivés à Jérusalem de Perse. Le problème, c'est quoi? C'est que les Ottomans ne veulent pas qu'ils restent. Ils disent, on a marre de ces nouveaux juifs qui arrivent et on décide de faire le Girouche Yehudim Shel Paras à Jérusalem. Et on va les renvoyer en Perse. Mais attends, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tout le monde essaie d'aller parler aux Ottomans. Rien n'y fait. On envoie Rabbi Yaakov Meir, et bien ça ne marche pas. Les Ottomans, le gouverneur dit, il est hors de question, ces juifs-là, ils n'ont pas d'argent, ils sont des poids pour la société. Allez, ils dégagent. À ce moment-là, Rabbi Yaakov Meir va aller trouver un jeune juif qui travaille chez le gouverneur. Il a la sympathie du gouverneur. Et il vient le voir, il lui dit, il faut que tu m'aides, j'ai une demande. Il dit, et le jeune juif lui répond, mais ne me demande pas d'aller voir le gouverneur pour qu'il essaie de changer sa décision, ça ne marchera pas. Il dit, non, c'est pas ça que je demande. Je demande simplement que tu ailles voir le gouverneur et que tu lui dises, le Rav Yaakov Meir aimerait accompagner les juifs de Perse dans leur chemin entre Jérusalem et Yafo, où ils doivent monter sur des bateaux pour être renvoyés en Perse. Et là, bon, bah ça va, c'est une demande qui est acceptable. Et donc, ce jeune juif intervient auprès du gouverneur, il dit OK, et c'est parti. Maintenant, ils y vont à pied. À pied, en calèche, en charrette. Combien de temps ça prend? Entre Jérusalem et Tel Aviv. À peu près 57 kilomètres. Une bonne journée. Une bonne journée de marche. Et tous ces Juifs qui sont en train de partir sont dans le désespoir le plus total. Le plus total. Ils ont fait tout le chemin depuis la Perse pour venir en Israël, à Jérusalem, et on les expulse. Sauf que c'était bien mal connaître Rabbi Yaakov Meir, qui depuis que le Xéra est tombé, travaille en chouchou, en secret, pour ne pas écouter les Ottomans. Et en fait, il a mis en place un plan. Et pendant tout le trajet, pendant toute la journée, il marche de charrette en charrette pour dire aux Juifs qui sont sur les charrettes, tenez-vous prêts, soyez prêts, tenez-vous prêts. Makara, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on sait un truc. Il y a un homme qui est responsable au port à Yafo de voir que tous les Juifs montent sur les bateaux et ensuite d'envoyer une lettre au gouverneur que les Juifs sont bel et bien montés sur les bateaux. Nous sommes en 1881 dans un empire ottoman corrompu où tout, et je dis bien tout, marche au bakchich. Eh bien, c'est le Rav Yaakov Meir qui va prendre son argent pour aller soudoyer le mec des Ottomans au port de Yafo, qui écrira la lettre sans avoir vu monter un seul juif dans les bateaux. Parce qu'ils sont où les juifs? Eh bien, à un moment donné, à l'approche de Yafo, le Rav Yaakov Meir donne l'ordre. C'est maintenant! C'est le moment! Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les juifs sortent des charrettes, courent, mais où? Eh bien, courent dans les bras des juifs de Yafo et des Moshavot qui sont venus les aider. Et en fait, il récupère tous les Juifs et il les cache dans les différents villages juifs autour de Yafo. Et une fois qu'ils sont cachés et que la lettre est arrivée, que c'est bon, ils ont pris le bateau, alors c'est bon, le gouverneur, il lâche l'affaire. Et 2 mois plus tard, eh bien, tous ces Juifs pourront revenir à Jérusalem sans que personne ne fasse attention à eux. Et le Rav Yaakov Meir a pu ramener tous les Juifs perses à Jérusalem. Bon, vous me dites, il a quand même fait quelques petites choses, mais comme là, il n'avait rien à faire, en 1882, l'année de la première Alia, eh bien, le Rav Yaakov Meir est choisi par les rabbins de Jérusalem pour devenir Shadar. Mais c'est Shadar, c'est Shlucha des Rabbanan. Il est le Shaliach des rabbins de Jérusalem pour être envoyé dans les communautés de Chutz La'aretz qui ont un peu d'argent, pour justement ramasser de l'argent pour Jérusalem. Et il est envoyé dans la ville de Boukhara. Vous connaissez les Boukharim? Eh bien, c'est la ville de Boukhara. Il arrive là-bas. Mais attention, le voyage pour arriver là-bas dure 3 mois. C'est un voyage très pénible, très dur. Et il part de Motsaé Chag Sukkot. Ça veut dire que c'est peut-être le pire moment pour y aller, puisqu'il part au moment où va commencer l'hiver. Et il faut traverser la Russie. Ce n'est pas simple d'arriver jusque là-bas. Mais Kitsour, il prend le bateau pour arriver jusqu'à Moscou. Et là-bas, sur le bateau, les Juifs qui vont vers là-bas, les Juifs russes, disent au Rav Yaakov Meir, « C'est toi le Rav Yaakov Meir ?» dit oui. Tu vas à Boukhara pour ramasser de l'argent? Et oui. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Il dit, dans mon sac, j'ai les lettres de tous les rabbins de Jérusalem signées qui disent et authentifient que je suis bien l'envoyé des rabbins de Jérusalem. Ben oui, parce que vous comprenez, à l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tous les moyens de communication, machin. Et donc, t'as un mec qui vient et dit, salut, je viens de Jérusalem, donnez-moi de l'argent. D'où on sait que c'est vrai. Donc, les rabbins, quand ils envoient quelqu'un, ils leur donnent des lettres signées pour dire c'est bel et bien notre envoyé. Et donc les Juifs qui sont sur le bateau lui disent, mais enfin, tu nous mets tous en danger. Du coup, comment ça je vous mets en danger? Avec tes lettres là. Tes lettres authentifient que tu es un Juif de l'Empire ottoman qui ramasse de l'argent pour l'Empire ottoman. Or, la Russie est en guerre contre l'Empire ottoman. Donc, si les Russes attrapent tes lettres, eh bien, nous serons tous en danger. À ce moment-là, Rabbi Yaakov Meir prend une décision sur le bateau. Il prend ses lettres, toutes ses lettres de recommandation, et les jette par-dessus bord. Il dit, mais attends, mais comment tu vas faire pour être reconnu là-bas quand tu vas arriver? Personne ne saura que c'est vraiment toi. Dès qu'il arrive à Moscou, il écrit une lettre au Rav Shaul Eliashar de Jérusalem pour lui dire, s'il te plaît, renvoie-moi une lettre qui m'authentifie. Bon, on verra. Entre-temps, il part à Boukhara et il arrive. Et lorsqu'il arrive, il est accueilli par les gens de la communauté. Oui, bonjour monsieur, vous êtes? Bonjour, je suis le Rav Yaakov Meir, Shlucha de Rabbanan. Je viens de Jérusalem. Ouais, c'est ça, ouais. Je viens de Jérusalem, ouais. Bah, y en a d'autres hein, qui ont tenté de venir de Jérusalem et de nous prendre de l'argent. Comment on sait que c'est vrai? Et là, le Rav Yaakov Meir va faire quelque chose de fantastique. Comment il va prouver qu'il vient bien de Jérusalem? Eh bien, je pense que c'est lui l'inventeur de, vous savez, les lunettes de réalité virtuelle. Aujourd'hui, tu peux aller, tu vas au Cotel, tu mets tes lunettes et tu as l'impression d'être au Beth Amikdash, tu vois le Beth Amikdash, machin. Ben lui, il a fait pareil, mais sans les lunettes. Il s'assoit et il dit à tout le monde de s'asseoir, de fermer les yeux et il leur raconte Jérusalem. Tout simplement, il va leur faire un tour touristique virtuel de Jérusalem. Et il ferme lui aussi les yeux et il commence à marcher dans les rues. Il dit, voilà, on rentre par la grande porte de Yafo. Et sur le côté gauche, au bout de 10 mètres, il y a quelqu'un qui vend des chalotes tout en chaude. Et puis, quand on avance encore un petit peu sur la droite, il y a le magasin de Yankele. Et Yankele, lui, il répare des chaussures. Et il a tout le temps du cirage plein les mains. Et on continue un petit peu. Et il va passer comme ça toutes les rues de Jérusalem. Et plus il parle, et plus les gens de Boukhara pleurent. Il dit, c'est pas possible. C'est sûr qu'il vient de Jérusalem. Personne ne peut nous raconter Jérusalem avec autant d'amour, autant de détails, s'il n'est pas l'homme de Jérusalem. Et ça va durer plusieurs jours qu'il leur raconte, raconte, raconte l'histoire. Lorsqu'il aura terminé l'histoire, une lettre arrive depuis Jérusalem. La fameuse deuxième lettre de recommandation. Et là, tout le monde dit, Zesiman Mishamaim, c'est bel et bien le Rav Yaakov Meir. Tout le monde, non seulement va lui donner de l'argent, mais plus que ça. Il va rester 3 mois là-bas, le temps qu'il puisse reprendre la route et que la neige est fondue. Et pendant toute la période où il est à Boukhara, tous les enfants, garçons qui naissent, seront appelés Yaakov Meir. En l'honneur du rabbin de Jérusalem. Bon, ça a marché, très bien. Donc, quand il revient, c'est pas chou, machou. Bekitsour, il revient en Israël, et comme ça a très bien marché sa première shlichut, alors les rabbins décident de l'envoyer dans une autre shlichut. Où? Au Maroc, en Algérie, et en Tunisie. Oui, messieurs, dames. En 1885, il part dans sa deuxième shlichut en Afrique du Nord. Et rebelote, cette fois, ce n'est pas pour ramasser de l'argent. Cette fois, c'est pour éveiller les Juifs d'Afrique du Nord à Eretz Israël. Eh oui, les amis. Lorsqu'il revient de sa shlichut, à ce moment-là, il décide que parler d'Israël, parler de Jérusalem, c'est bien, mais construire Jérusalem, c'est mieux. Et comme il s'embêtait un peu, comme il se disait qu'il n'avait pas fait grand-chose depuis 2 ans, Alors, en 1888, il prend un nouveau projet. Il a à peine 32 ans et il décide qu'il faut construire des nouveaux quartiers à Jérusalem. Et c'est lui, Yaakov Meir, Arav, Hachadar, qui va créer les quartiers de Ezrat Israël, de Yamin Moshe et de Shchounat Aboukharim. Vous vous rappelez des Boukharim? Ils ont gardé un contact très, très comme ça, si bien qu'il va réussir à les faire monter en Israël et va leur créer le quartier des Boukharim. Trois quartiers à Jérusalem ont été l'impulsion du Rav Yaakov Meir. Bon, là, j'ai envie de te dire, il a 33 ans, ça fait au moins 2 mois qu'il n'a pas appris un projet, donc c'est pas possible. À ce moment-là, en 1889, tout d'abord, il fait un truc, c'est pas un projet. Vous vous rappelez de quand il avait 8 ans et qu'il était au Kotel et qu'il entendait le chant de tous les Juifs ensemble? Eh bien, cette fois, on lui demande d'être le rabbin de Yafo. Il dit, je veux bien, mais j'ai une condition. Il est hors de question qu'il y ait d'autres rabbins à Yafo. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, je veux bien qu'il y ait plein de rabbins, mais il ne peut pas y avoir d'autres communautés. Il est hors de question qu'on fasse des communautés différentes. Et je n'ai pas besoin d'être moi le rabbin. Je veux qu'il n'y ait qu'une seule communauté à Yafo. Ashkenazim, Sfaradim, tout le monde ensemble. Et d'ailleurs, il dira, pour être sûr que ça se fasse, je ne serai pas le rabbin, mais je serai là pour vérifier que ça se passe bien. Et effectivement, depuis lors, il n'y a qu'une seule communauté à Yafo. Lorsque le Rav Kook arrivera plus tard rabbin de Yafo et des Moshavot, il n'y aura pas deux rabbins, il n'y aura qu'un rabbin de Yafo et des Moshavot qui a créé cette ichoud, achdout des communautés, c'est le Rav Yaakov Meir. Et en 1889, il va se passer un autre truc. Il décide de prendre ses élèves, parce que maintenant, ça y est, il a des élèves, il a 33 ans, c'est un vieux. Et il prend ses élèves et il va aller prier avec eux sur le kever de Shimon HaTzadik. Il habite toujours à Jérusalem. Et bon, vous savez, Shimon HaTzadik, c'est vraiment pas loin. Et il va aller prier là-bas. Je rappelle que Shimon HaTzadik, ce n'est pas Sheikh Jarrah. C'est Shimon HaTzadik. Et ça a été acheté par des Juifs. Ces terrains-là appartiennent aux Juifs. Mais Mala Asot, les Arabes font des problèmes. Et il y a un nouvel Arabe qui habite juste à côté de la Mehara de Shimon HaTzadik, qui a décidé de s'approprier la Mehara, qui a mis des barbelés tout autour et deux grosses portes fermées par un cadenas en acier, en fer. Et il ne permet aux Juifs de rentrer prier chez Shimon HaTzadik que s'ils payent. Et lorsque le Rav Yaakov Meir dit, venez, on va maintenant à Shimon HaTzadik, les gens lui disent, mais on ne peut pas, c'est compliqué. Il dit, choum compliqué. Choum compliqué. Et il y va avec 30 mecs. Et une fois qu'il arrive devant les portes, il voit l'Arabe sur la terrasse qui les regarde et dit, ah, 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 on ne pourrait pas rentrer. Et les mecs, ils lui disent, ils disent, mais on n'arrivera jamais à casser ce cadenas. Il dit, mais évidemment qu'on n'arrivera pas à casser le cadenas. Mais je n'ai pas pris 30 personnes avec moi pour enlever le cadenas. J'ai pris 30 personnes avec moi pour enlever les portes. Et ils vont soulever. Vous vous rappelez de Rabbi Jacob? Rabbi Jacob, on prend le taxi. On soulève le taxi. Vous vous rappelez? Ben là, c'est pareil. Les mecs, ils vont sortir les portes de leur gonds et ils vont tout simplement enlever les portes. Et une fois qu'ils enlèvent les portes, à 30, ils portent les portes et ils les emmènent avec eux. Et quand il arrive devant la terrasse de l'Arabe, il le regarde et il lui dit en arabe, souviens-toi de Shimshon Agibor, qui a pris les portes de Gaza et qui les a mis à l'entrée de Hébron. Et à partir de cette date-là, 1889, jusqu'à l'arrivée des Anglais, en fait, cet arabe et les arabes de la région, ils diront, OK, avec ces gens-là, il ne faut pas se prendre la tête, on ne va pas s'exciter avec eux, ils sont encore plus fous que nous. Et donc les Juifs peuvent retourner prier à Shimon HaTzadik. Bon, Il peut se reposer ou pas? Ben non, pas du tout. Maintenant, il a 34 ans. 34 ans, c'est l'âge où on fera un nouveau projet, on a dit. Et donc, en 1890, il en a marre. Il en a marre, il en a marre. Il parle d'unité tout le temps. Il parle de Torah. Il parle de Kabbalah. Mais les gens, ils rentrent dans tous les bates midrash et ils parlent en ladino. Ils parlent en arabe. Ils parlent en judéo-arabe. Ils parlent en yiddish. Mais ce n'est pas possible. Comment tu veux créer un peuple renouveau si jamais tu parles pas comme il faut? Et oui, et là je le dis. Et là je le dis. Parce que si avant ce cours, je vous avais dit qui a ressuscité la langue hébraïque? Vous allez me dire Eliezer ben Yehuda, et il a énormément de mérite. Sauf que Eliezer ben Yehuda va être un, comment dire, il va être un employé. Il est l'employé de quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un? Eh bien, c'est un monsieur qui, avec le Rav Hirschenzon, décide en 1890 de créer une organisation qui va s'appeler Safa Berura. Pourquoi? Pour enseigner l'hébreu dans toutes les communautés, qu'elles soient au Cheder, au Beis Midrash, ou alors dans les nouvelles communautés socialistes, on va réapprendre l'hébreu. Maintenant, le problème, c'est que le Rav Hirschenzon, il est déjà vieux, et le Rav Yaakov Meir, bah, il a d'autres responsabilités rabbiniques, et donc il ne peut pas être sur le projet tout le temps. C'est lui qui crée le projet, et c'est lui qui va auditionner et engager Eliezer ben Yehuda pour ressusciter l'hébreu. Les amis, l'hébreu, c'est Eliezer ben Yehuda, sous la dictée du Rav Yaakov Meir. Bon, là c'est bon. Ben oui, en vrai, là c'est bon. Là c'est bon pendant, et c'est très très long quand vous comprenez un petit peu sa vie, pendant 17 ans, eh ben il ne va rien se passer de foufou. Ça veut dire quoi? Ben, pendant 17 ans, il étudie la Torah, il enseigne la Torah. Il est présent, il est le rabbin de Jérusalem, il est considéré comme étant le Rishon Letzion. Alors attention, Rishon Letzion, ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire le rabbin séfarade principal de Jérusalem. Seulement en 1907, on vient le chercher pour lui faire une proposition. En 1907, vous aurez compris, il a presque 50 ans, et là on vient le chercher, on lui demande de devenir le grand rabbin de Salonique, le grand rabbin de la Grèce en fait. Et sa famille, elle vient de Grèce. Et tout le monde le connaît, tout le monde l'accueille, tout le monde l'aime, et il accepte de venir en shlichout à Salonique. Et il dit, je ne vais pas m'installer là-bas, Akadosh Baruch Hu m'enverra un signe lorsque ce sera le moment de revenir en Eretz Israël. Et il part en 1907, il devient le rabbin de Salonique. Ok, les amis, Beseder, mais juste avant de partir, en 1907, la même année, arrive la journée de Pessah. Le Rav Yaakov Meir, comme on l'a dit, est déjà très très connu à Jérusalem, il est un des rabbins principaux, mais en 1907, Erev Pessah, mamash, l'après-midi avant Pessah, il y a un homme qui arrive dans les rues de Jérusalem. Cet homme, il est marin, il est commandant d'une flotte marchande et il vient d'accoster depuis quelques jours au port de Yafo et il veut absolument venir visiter Jérusalem. Il est chrétien, mais pour lui, ça lui tient à cœur. C'est la première fois qu'il vient à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive se balader dans les rues de Jérusalem, imaginez-vous les rues de Jérusalem l'après-midi avant Pessah. Donc, bah, c'est compliqué. Tout le monde court dans tous les sens et le pauvre, personne n'arrive à lui parler. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Rav Yaakov Meir. Et lorsqu'il rencontrera le Rav Yaakov Meir, eh bien, le Rav Meir lui dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Et il voit que la personne parle en anglais. Ça tombe bien, le Rav Meir parle anglais également. Alors, il essaie de lui expliquer, voilà, c'est une journée très particulière, ce soir c'est Pessah, c'est un peu le balagan. Tu sais quoi? Viens chez moi. Et il l'amène chez lui le soir du Seder. Vous allez me dire, c'est un non-juif, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Le Rav Yaakov Meir, quand on n'a pas le droit, il prend le gauche. Et il l'invite le soir du Seder. Sa table est énorme, il y a plein de gens. Et c'est ce jeune Anglais est complètement émerveillé de ces histoires. La sortie d'Égypte, il a lu la Bible, il connaît la Bible. Mais tout d'un coup, il a l'impression de revivre vraiment la sortie d'Égypte avec le Rav Yaakov Meir. Il dit, pour lui, c'est Moshe, c'est Moïse. Et il va être extrêmement impressionné par le Rav, par la sortie d'Égypte, par Pessah. Et après, le lendemain, il retournera sur son bateau et il retournera en Angleterre. C'est qui ce personnage? Eh bien, ce personnage, c'est l'amiral en chef de la flotte britannique marchande. Il est noble, il est de la famille royale, mais il n'est pas du tout prévu qu'il soit roi, puisqu'il est troisième dans l'ordre de succession. Il s'appelle George V. Sauf que Akadosh Baruch Hu fera en sorte de tourner les choses pour que, durant la Première Guerre mondiale, ce soit lui qui soit le roi d'Angleterre. Et son influence, l'influence qu'avait eue le Rav Meir sur lui, ne sera pas restée dans l'oreille d'un sourd lorsqu'il ordonnera à Balfour de faire la déclaration Balfour en 1917. Oui, déclaration Balfour, quelque part à Rav Yaakov Meir. Enfin bon, il part donc à Salonique et pendant 10 ans, il devient le rabbin de la Grèce. Et pendant ces 10 années, il va avoir des contacts avec tout le monde, y compris avec le roi de Grèce. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le roi de la Grèce vient chez le Rav Yaakov Meir pour lui demander conseil. Il lui dit, est-ce que je dois rentrer en guerre ou pas? Tu es l'homme le plus sage de tout le pays. Dis-moi. Et le Rav Meir se dit, je ne sais pas quoi faire. Parce que si je lui dis de rentrer en guerre et que la Grèce perd, ben il va m'en vouloir. Et il va certainement en vouloir aux Juifs. Si je lui dis de ne pas rentrer en guerre et qu'à cause de ça, la Grèce perd, ben il va m'en vouloir aussi. Alors que faire? Eh bien, il se présente devant le roi et lui dit, ainsi parle le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Dans le livre de Michelet, et il nous enseigne dans les proverbes, Lev Melachim Beyad Hashem. Le cœur des rois est dans la main de Dieu. Et le Rav Yaakov Meir lui dit, vous savez, votre majesté, moi, personnellement, eh bien, mes choix, mes décisions, c'est les miennes. Mais toi, tu es roi. Et les rois sont directement, leurs choix sont directement dictés par Dieu. Et donc, je ne peux pas te conseiller quoi que ce soit, parce que je ne suis qu'un homme. Et si je te conseille et que tu fais les choses parce que moi, je t'ai dit quelque chose, alors tu ne pourras pas révéler la main de Dieu à travers toi. Donc, tu dois prendre la décision seul. Et là, le roi de Grèce dit, bon, alors ça, je ne pensais pas, je savais que les Juifs étaient sages, mais je ne savais pas qu'ils donnaient autant de kavod également au roi des Goïms. En 1917, le Rav Yaakov Meir reçoit le Siman Mishamaim. Il y a un terrible incendie à Salonique. Incendie qui va détruire la bibliothèque, le Bet HaMidrash et la synagogue. À ce moment-là, le Rav Yaakov Meir comprend que c'est le signe où Akadosh Baruch Hu lui demande de rentrer en Eretz Israël. Il termine la reconstruction de la synagogue et une fois que la ville peut se remettre, il part. Et il revient en Eretz Israël. Et il arrive. Seulement lorsqu'il arrive en Eretz Israël, alors qu'il est connu de tous, eh bien il prend sur lui, pas le dernier projet, l'avant-dernier. C'est quoi l'avant-dernier projet? Il va s'asseoir dans un bureau avec un autre rabbin. Et cet autre rabbin lui dit, il n'y a que toi pour venir avec moi. Et je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que tu n'aimes pas la division. Et tu as tellement raison. Mais à Yafo, tu as réussi. Dans tout Israël, ça sera trop dur pour l'instant. On ne pourra pas faire un seul rabbin de tout Israël. Oui, parce que le rabbin qui est avec lui dans le bureau, il a décidé de créer le grand rabbinat d'Israël. Et il dit, si moi je vais être le grand rabbin Ashkenaz, Il n'y a que toi pour être le grand rabbin séfarade de tout Israël. Oui, vous m'avez bien compris. Il vient de s'asseoir dans le bureau en 1921 avec le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Et le Rav Yaakov Meir deviendra le premier grand rabbin d'Israël séfarade à côté du Rav Kouk. Vous vous rappelez, au début du cours, j'ai dit qu'il est très inconnu, très méconnu, parce qu'il y a une raison, mais je ne vous spoile pas. L'une des raisons, eh bien, c'est parce que à la fin de sa vie, il va vivre dans l'ombre du Rav Kouk. Parce que quand tu es avec le Rav Kouk à côté de toi, c'est vrai que c'est compliqué d'être mis en avant. Mais il est le premier grand rabbin d'Israël séfarade avec le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Quoi vous dire de plus? Qu'en 1930, eh bien, il décide de prendre son dernier grand projet. C'est quoi son dernier grand projet? 1930, on est un an après le pogrom de Hebron. Eh bien, c'est lui, le Rav Yaakov Meir, qui va être le premier, alors que c'est pas un gouvernement, mais que les Anglais, évidemment, sont contre, et que les dirigeants juifs sont contre, c'est lui qui va prendre une trentaine d'hommes avec lui pour aller ramener les Juifs à Hebron. C'est le Rav Yaakov Meir qui ramènera la première présence juive à Hebron, un an à peine après le pogrom de Hebron. Voilà, les amis. Voilà qui est le Rav Yaakov Meir. En 1939, il ne verra pas la création de l'État d'Israël, il ne verra pas non plus la Shoah. En 1939, celui qui était de Grèce et qui a ramené la grâce à Israël, eh bien, rend son âme à Kadosh Baruch Hu. À Rav Yaakov Meir, de la Grèce à la grâce, celui qui était et restera à jamais le Rishon Letzion. Celui qui nous a appris que l'Ahdout n'est pas qu'un mot, mais une action au quotidien. Rav Yaakov Meir, Chazak ou Baruch. Vous pouvez rallumer les micros, il ne reste que 5 minutes, je suis désolé, mais Zemayesh.
C'est vrai que c'est dommage, hein, franchement, qu'il ne soit pas plus connu. C'est incroyable.
Ben maintenant, c'est à toi de le faire connaître.
Ah ouais. Et c'est un exemple.
Il a des, descendants. Il a des descendants.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Non, mais connu, enfin que.
Non, pas que je sache, en tout cas.
Raph Fison, oui, vous avez dit qu'il a été nommé grand rabbin à Yafo, et sa condition principale, c'était qu'il soit le rabbin de toute la communauté Ashkenaz et Sepharad.
On lui a proposé, mais il a refusé. Oui. Il a dit, j'accepte que s'il y a qu'une seule communauté, et finalement il a dit bon, finalement j'y vais pas parce que j'ai d'autres rôles à Jérusalem, mais il a réussi à faire une seule communauté.
Et quand il a été nommé grand rabbin d'Israël, il n'a pas demandé la même chose qui est un rabbin de Sepharad Ashkenaz?
Oui, il a demandé, mais le Rav Kouk lui dit que tu as réussi à faire à Yafo. D'ailleurs moi j'en ai profité parce que le Rav Kouk, il était le grand rabbin de Yafo avant d'être le grand rabbin d'Israël, mais il a dit on n'y arrivera pas tout de suite en Israël. Il y a trop. Sur Yafo, c'est petit. Il y a Chassid, c'est petit. Il y a pas énormément de Juifs. Et puis, ils sont surtout pas installés depuis très longtemps. Mais réunir les communautés Ashkenaz-Sepharad à Jérusalem, par exemple, c'est déjà une autre affaire. Donc, le Rav Kouk lui a dit on n'y arrivera pas tout de suite.
D'accord. Quand est-ce que le grand rabbinat a arrêté d'être dans l'action?
C'est une bonne question. Moi, je, franchement,
pas du tout polémique.
Très honnêtement, j'ai l'impression que les derniers grands rabbins d'Israël qui ont été vraiment les grands rabbins d'Israël, c'était le Rav Eliyahu et Reb Avrum. Reb Avrum Shapira et le Rav Mordechai Eliyahu. J'ai l'impression qu'à partir des années 2000, il ne se passe plus grand-chose. Quelqu'un d'autre? Une question? Quelque chose?
Merci
beaucoup. Alors, par contre, il y a quelque chose de très intéressant, enfin, de très étonnant. Il n'a rien écrit, à part ses journaux et ses trucs personnels. Il n'a pas écrit de Sfarim, quoi que ce soit. Il était vraiment dans l'action. Mais il ne nous a pas laissé d'écrit. C'est un peu. Bon, c'est dommage, mais je pense qu'il n'y avait pas le temps. Hein. Ah, oui, enfin. Il a écrit énormément de choses pendant sa période salonique, mais tout a brûlé dans l'incendie de Salonique.
Oui, il nous a laissé un exemple.
Est-ce qu'il a appris la Kabbale avec...
On a dit, il était l'élève et le méchamèche du Rosh Yeshiva Tamekoubalim Bethel.
Un Bethel, c'est Nachon, c'est le train.
Okay, du Rav Uziel.
De Rav Uziel, Nachon.
C'est passionnant, mais c'est bizarre qu'on ne le célèbre pas, plus ou moins.
Ah bah, je te lance, voilà, ça y est, au boulot.
Est-ce qu'on a une rue en son nom
Oui, bien sûr, bien sûr. Bemekor Baruch. Bemekor Baruch, yes.
Bemekor Baruch. Ok.
Rav, pourquoi vous dites que la Rabbanout Arachit a perdu son influence? Elle est quand même importante, on ne peut quand même pas... on doit quand même tenir compte.
J'ai le droit d'avoir un joker, non?
Mais comment je...
J'ai le droit d'avoir un joker de ne pas répondre à cette question.
Vous avez le droit, c'est sûr.
Merci, merci. Okay. Demandez à Rav Cherki ce qu'il en pense.
C'est politique.
Non, on demande la grandeur, mais...
Edma Lassot, je vais vous dire très simplement. Fut un temps, et je pense honnêtement que le Rav Eliaou et le Rav Abraham Shapira, c'était les derniers comme ça. Quand on parlait des grands rabbins d'Israël, quel que soit le milieu, on savait que c'était les Gdolador. C'est-à-dire que quand Reb Avroum Shapira, même si c'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Arabe, que c'est sioniste et tout ce que tu veux, quand le Reb Avroum y meurt, tout le monde rabbinique entier pleure le Gdolador qui vient de mourir. Quand le Rav Mordechai Eliaou, il est le Rav Mordechai Eliaou, il n'y a pas de débat sur la grandeur et sur le gigantisme du Rav Eliaou. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, très honnêtement, on parle du Rav David Lao et du Rav Yitzhak Yosef de la même façon.
D'accord, mais l'institution est importante.
Ah, mais l'institution est très importante. C'est justement ça qui me dérange. C'est qu'elle soit très importante et qu'elle joue pas son rôle.
Il manque les fondations.
Si vous voulez, quand on parlera un peu plus tard, parce que c'est déjà la deuxième moitié du XXe siècle, mais quand on parlera par exemple du Rav Yitzhak Nissim, Harishon Letzion, là tu vas voir ce que c'est une Rabbanout Arachit qui prend son rôle au sein. Mais bon, on verra, on n'y est pas encore.
Bah, j'attends. Merci.
Ashrecha, Ashrecha, Toda. Merci. Eh bien, les amis. Alors, regardez, je ne sais pas ce qui est prévu. J'imagine que la semaine prochaine, on va parler de Tu Bishvat, j'imagine. Et je vous avoue que là, je rentre dans une période de stress. Pourquoi? Parce que plus les cours passent et plus on va être obligé d'arriver à faire un cours sur la personne que j'ai peur de parler de lui. Et c'est, vous savez, je vous le dis, hein, je fais des cours sur des personnages depuis longtemps et à chaque fois, j'ai fait, je ne sais pas, ça doit être intérieur, mais j'évite à chaque fois d'en parler parce que je me dis, j'y arriverai pas. Zegadol alai. Mais à un moment donné, on ne va pas avoir le choix que de parler du Rav Kook et de faire un cours ou deux sur le Rav Kook, mais je fuis. Je fuis alors que j'enseigne le Rav Kook, je parle du Rav Kook tout le temps, j'adore. J'ai peur. J'ai peur de parler du Rav et de sa vie. Mais on ne va pas avoir le choix, hein, donc Bezrat Hashem. En tout cas, je crois que la semaine prochaine, Bishvat, on verra.
Merci de cette honnêteté et humilité que d'oser dire que...
On n'a pas vu le temps passer, c'était trop. J'étais très...
Merci, on a passionnant.